Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le 2 novembre 1917, en pleine guerre mondiale, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, adresse au président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne une lettre dans laquelle il promet la création d'un foyer national juif en Palestine. Considéré comme une des premières étapes dans la création de l'État d'Israël, ce courrier centenaire ne doit pas être regardé comme une promesse faite pour des motifs sentimentaux, loin de là, mais d'abord comme une mesure pratique prise dans une période du conflit particulièrement délicate, où les Britanniques lorgnent expressément sur l'Empire ottoman proche de l'implosion. Une décision pragmatique et totalement intéressée, dont on voit aujourd'hui les conséquences. Et aujourd'hui, que pensent les Arabes et les Israéliens de cette déclaration? C'est ce que nous verrons avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchantier au Caire. On écoute une version instrumentale de la chanson israélienne la plus connue au monde, Hava Nagila, probablement composée en 1918 pour célébrer à la fois la déclaration Balfour de 1917 et la mainmise britannique sur la Palestine à la fin de la guerre. Bonjour Alain Grèche.
Bonjour.
Directeur du journal en ligne Orient 21. Vous avez également collaboré et dirigé pendant de nombreuses années Le Monde Diplomatique. Et vous publiez une bande dessinée aux éditions La Découverte. Ça s'appelle Un chant d'amour. Israël-Palestine, une passion française. Alors, nous évoquons avec vous la déclaration Balfour qui a eu 100 ans avant-hier. C'est en effet le 2 novembre 1917 que Lord Arthur James Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, adresse une lettre à Lord Walter Rothschild, un des représentants du judaïsme britannique. Une lettre qui va changer le cours de l'histoire au Moyen-Orient. Que dit cette lettre précisément?
Écoutez, on peut la lire parce qu'elle est extrêmement courte. C'est le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives ou aux droits ou aux statuts dont les juifs jouissent dans tout autre pays. Alors ça amène déjà deux remarques, c'est que la population locale est qualifiée de population non juive, elle n'est pas définie, c'est pas les Arabes de Palestine, donc ce sont des communautés. Et deuxièmement, la mention sur le fait qu'il ne faut pas que ça porte atteinte aux intérêts et aux statuts des juifs en Europe, met en lumière quelque chose qu'aujourd'hui on a oublié, c'est que la majorité des communautés juives, y compris la communauté juive britannique, est totalement hostile au sionisme. Pour eux, le sionisme est un risque de mettre en cause leur statut, parce qu'à partir du moment où il y a un État juif, eux, juifs français, britanniques, ils sont quoi? Des citoyens israéliens ou des citoyens de leur pays? Et donc, cette opposition très forte qu'on a aujourd'hui oubliée, notre président de la République qualifie les antisionistes d'antisémites. Il faut dire que en 1917, la grande majorité des juifs est hostile au sionisme. Donc voilà le contexte. Et évidemment, le contexte, c'est aussi la Première Guerre mondiale sur laquelle on va revenir.
Alors justement, quelles sont les raisons qui poussent la couronne britannique à prendre cette résolution?
Les Français et les Britanniques sont en train de gagner la guerre. Les Britanniques vont conquérir Jérusalem quelques jours plus tard. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'Empire ottoman? Et les Français et les Britanniques ont décidé de se partager l'Empire ottoman. Il y a eu les fameux accords Sykes-Picot en 1916, dans lequel le statut de la Palestine est ambigu parce que, en fait, les Français et les Britanniques sont à égalité dans le contrôle de la Palestine. Or, les Britanniques ne veulent pas du tout des Français, qu'ils considèrent comme des concurrents. Et il faut bien voir, quand on regarde une carte, c'est évident, la Palestine, c'est le flanc est du canal de Suez. Et le canal de Suez, c'est la route royale qui mène du Royaume-Uni à l'Inde, qui est le joyau de l'Empire britannique. Donc, il est hors de question pour les Britanniques de laisser une influence française en Palestine. Et donc, ils vont se servir d'un mouvement qui est né au 19e siècle, le mouvement sioniste qui veut recréer un État juif. Il va se servir de ce mouvement pour pousser dehors les Français. Il va obtenir que le mouvement sioniste demande aux Français de laisser la Palestine au nom de la promesse Balfour. Donc, pour les Britanniques, il s'agit avant tout, c'est pas une sympathie particulière pour les Juifs, Lord Balfour a...
Est lui-même antisémite ou proche de ses thèses?
Thèse, en 1905-1906, il a fait adopter des lois antisémites, enfin, hostiles à l'immigration, essentiellement à l'immigration juive en Grande-Bretagne, donc c'est pas du tout une sympathie quelconque pour les Juifs, c'est simplement l'idée que, finalement, le sionisme sera un point avancé de l'Europe dans cette Asie barbare.
Alors, ce n'était pas du tout pour faire plaisir aux Juifs, notamment américains, et pour inciter les États-Unis à entrer en guerre aux côtés des Alliés.
D'abord, les États-Unis étaient déjà en guerre, premièrement. Deuxièmement, il y a d'autres raisons. C'est-à-dire, c'est évident que la question de l'influence des Juifs dans les différents pays en guerre est très importante. Et il y a, chez beaucoup de dirigeants, une vision très antisémite, c'est-à-dire les Juifs sont partout, ils contrôlent la finance aux États-Unis, ils contrôlent les médias, etc. Et il faut donc les conquérir. Et donc ça fait partie de... C'est vrai que la promesse Balfour et les contacts avec les organisations sionistes font un peu partie de ça. C'est aussi la volonté qu'en Russie, où on est à quelques jours de la révolution bolchevique, où les Britanniques ont très peur que la Russie sorte de la guerre, donc la promesse Balfour, c'est aussi de dire aux Juifs russes, arrêtez de travailler pour les mouvements révolutionnaires type menchevique ou bolchevique, et faites un effort pour que la Russie reste dans la guerre. Donc il y a d'autres éléments, mais fondamentalement, je crois que c'est les intérêts de l'Empire britannique dans la région. C'est quand même, il faut le rappeler, je veux dire, l'Empire britannique à l'époque, c'est la grande puissance mondiale, elle va sortir renforcée de la Première Guerre mondiale, alors que la France, en quelque sorte, elle sera très affaiblie.
Mais alors, comment expliquer que l'Empire britannique, justement, fasse cette promesse de foyer juif, aux juifs de la diaspora, mais dans le même temps, a aussi fait des promesses, notamment aux pays arabes, qui, eux, voudraient se défaire de l'Empire ottoman.
Mais c'est le cynisme absolu. Les Britanniques vont faire des promesses contradictoires. D'abord, ils vont faire des promesses aux Français sur le partage. Ensuite, ils vont vouloir obtenir une révolte des Arabes. À l'époque, donc, l'Empire ottoman qui contrôle la région, c'est un empire turc, et donc il y a commence à surgir une revendication arabe. Et donc, à travers la fameuse personne de Laurence d'Arabie, ils vont susciter une révolte des Arabes contre l'Empire ottoman en échange de la promesse d'un grand royaume arabe uni. Promesse qu'ils ne vont jamais tenir. Et en même temps, ils font la promesse aux sionistes. Et il faut dire, maintenant on sait qu'à la même époque, ils sont en train de négocier avec l'Empire ottoman pour essayer d'obtenir que l'Empire ottoman sorte de la guerre et à ce moment qu'ils garderaient un certain contrôle du Proche-Orient. Donc on est dans le cynisme absolu.
Mais alors, comment expliquer que dans cette déclaration Balfour, il y a une mention pour les populations autochtones et qu'elle n'ait jamais été suivie des faits finalement?
Oui, mais je crois que ce qui est important de noter, c'est pas tellement les populations autochtones, c'est des populations qualifiées simplement de non-juives. C'est une manière de dire, on veut pas évidemment que leurs droits soient violés, mais en même temps de dire qu'ils n'ont que des droits individuels, qu'ils n'ont pas de droits collectifs. Or, à partir de la Première Guerre mondiale, ce qui va se poser dans tous les pays arabes, c'est le problème des droits collectifs, c'est-à-dire de l'indépendance nationale. Et là, c'est une manière de dire, mais ils ne sont pas une population nationale, c'est simplement des minorités chrétiennes ou musulmanes.
Alors, le traité de Versailles de 1919, et surtout le traité de Sèvres en 1920, qui d'ailleurs sera rectifié par un traité à Lausanne en 1923, donc mettent en pratique cette déclaration Balfour. Quelle est la situation au Moyen-Orient à ce moment-là précis?
Disons, le monde arabe a été divisé en deux par les Français et les Britanniques. Les Français contrôlent le territoire de ce qui est aujourd'hui la Syrie et le Liban. Les Britanniques, qui contrôlaient déjà l'Égypte, vont contrôler la Palestine, la Transjordanie, l'Irak. Et puis, il y a le Royaume d'Arabie Saoudite qui est en train de se créer. Donc, il y a un partage, mais quand même, la grande force dominante, c'est les Britanniques. Et à partir de ce moment-là, on va assister à un mouvement national. Surtout après l'échec, il y a eu une tentative d'échec de créer un grand royaume arabe uni à partir de Damas, ça va échouer. À partir de ce moment, il va y avoir des luttes nationales menées en Syrie, en Égypte, en Irak, pour l'indépendance nationale. Et évidemment, le cas particulier, c'est la Palestine, parce que, je veux dire, il y a une chose qu'il faut bien montrer dans ce cas palestinien, c'est qu'on a affaire non pas simplement à une forme de colonialisme, le colonialisme est le système dominant à l'époque, mais à une chose sans précédent, enfin, pas sans précédent, mais qui n'a pas existé ailleurs au XXe siècle, c'est un colonialisme de peuplement. C'est-à-dire, si vous voulez, le colonialisme de peuplement tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire en Amérique du Nord, en Australie, en Algérie, c'est un fait du XIXe siècle. La seule entreprise de colonialisme de peuplement au XXe siècle, c'est l'entreprise sioniste. Et ça, ça va évidemment créer des tensions dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, dès que les Palestiniens vont apprendre la déclaration Balfour, et puis dès qu'on va voir arriver, non pas des Juifs en Palestine, et c'est là où on voit qu'il y a bien un tournant. Il y a eu, avant Balfour, toute une série d'émigrations juives. D'abord, il y avait une population autochtone juive, puis il y a eu ce qu'on appelait les amants de Sion, des gens qui disaient « il faut retourner là-bas », puis il y a eu Rothschild qui a créé des colonies agricoles. Mais tout ça ne posait pas problème, ne posait pas tellement de problèmes parce que c'était pas une revendication nationale, c'était simplement des gens qui s'installaient. Mais là, à partir de 1917, c'est autre chose. C'est pas des réfugiés qui viennent, c'est des gens qui disent c'est notre terre. Et c'est une manière de dire aux Palestiniens, ce n'est pas votre terre. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer sur le terrain.
Alors, comment expliquer que finalement, entre 1917, 1923, on attend de 1947 pour qu'un État juif soit créé, Israël?
Mais d'abord parce que il y a peu de juifs qui vont en Palestine. C'est-à-dire, entre, en gros, 1880, c'est-à-dire au moment les grandes vagues antisémites en Europe de l'Est et dans l'Empire tsariste, et 1920, il y a, je crois, 4 millions et demi de juifs qui s'installent aux États-Unis. C'est la terre promise, non seulement pour les juifs, mais c'est la terre de promise pour tous les émigrés d'Europe de l'Est, qu'ils soient juifs ou non juifs. Il y a quelques dizaines de milliers qui vont en Palestine. Comme je dis, le mouvement sioniste est un mouvement ultra minoritaire. Personne n'a envie d'aller piocher
dans le désert du Negev.
Voilà, ils préfèrent aller à New York, et on les comprend. Ce qui va changer la chose, c'est deux éléments importants. C'est les États-Unis vont fermer les portes de l'immigration à partir de 25-26, des lois anti-immigrés, anti-juives aussi, très fortes, qui fait que pratiquement jusque dans les années 60, ça sera très difficile d'entrer. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale et malgré le génocide, les États-Unis ouvrent leurs portes, ils permettent, je crois, 5000 juifs qui peuvent aller là-bas. Donc, le seul endroit où on peut immigrer, c'est la Palestine. Et puis, évidemment, la montée du nazisme et de l'extrême droite à partir des années 30, qui va faire qu'il y a une vague d'immigration, qui va amener en 47 au fait qu'il y a un tiers de la population sur le territoire historique de la Palestine qui est juive.
Dans la déclaration, il y a aussi un élément concernant les juifs qui n'émigreraient pas finalement en Israël. Mmh. Pourquoi cette mention particulière?
Mais c'est comme je l'ai précisé au début, c'est-à-dire beaucoup de juifs craignent que si se crée un État juif, leur statut, qui s'est quand même nettement amélioré dans les démocraties occidentales, que ce soit la France, ils ont vu leurs droits politiques reconnus, soit mis en cause. On va leur dire, mais attendez, vous faites allégeance à qui? À la France ou au futur État juif? Et donc, il y a une très grande réticence et une ambiguïté dans la bande dessinée qu'on a faite. On met en scène une rencontre qui a existé entre Yitzhak Shamir, qui est Premier ministre d'Israël, et Valéry Giscard d'Estaing. Et Yitzhak Shamir dit à Giscard d'Estaing, nous avons visité notre communauté, en parlant des Juifs français. Et Giscard d'Estaing s'indigne et dit, mais non, c'est pas votre communauté, ce sont des Français. Et je veux dire, cette contradiction, elle a préoccupé les Juifs dès la naissance du mouvement sioniste.
Alain Gresh, diriez-vous que cette déclaration Balfour, il y a 100 ans, est directement à l'origine du conflit israélo-palestinien?
Ah oui, c'est même son acte de naissance. Beaucoup de conflits, on n'est pas capable de dire quand ils ont commencé, mais on peut dire que le 2 novembre 1917, la lettre de Balfour ouvre la voie au conflit et à un conflit qui dure maintenant depuis 100 ans et dont malheureusement, on ne voit pas l'issue.
Merci Alain Gresh, directeur de la revue Orient 21.
Merci à vous.
Et je renvoie également à votre bande dessinée publiée aux éditions La Découverte, Un chant d'amour, Israël-Palestine, une passion française.
Orient Hebdo sur RFI.
100 ans après, comment cette déclaration Balfour est-elle ressentie au Moyen-Orient? C'est ce que nous allons savoir en retrouvant Alexandre Bouchanti au Caire et Michel Paul à Jérusalem. Michel, quelle est la portée de la déclaration Balfour aujourd'hui en Israël?
Eric, la déclaration Balfour est pour les Israéliens la Magna Carta, la charte qui marque le début de l'établissement d'une entité sioniste en Palestine et qui légitime à leurs yeux en quelque sorte l'existence de l'État hébreu. Un commentateur parle même de la sortie d'Égypte du peuple juif. Mais pour tous les experts, il est évident que le texte est à la base du conflit, et cela non pas il y a 100 ans ou même en 1948, au moment de la guerre d'indépendance d'Israël et de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe, mais encore et peut-être même surtout aujourd'hui.
Aujourd'hui, le processus de paix israélo-palestinien est au point mort. Peut-il renaître sur la base de la déclaration Balfour ou alors faut-il changer les données de base, Michel?
L'idée du foyer juif en Palestine est née dans un contexte de consensus international et cela contraste bien avec l'isolement dans lequel Israël se trouve aujourd'hui. Et c'est précisément, pour le professeur Denis Charbit de l'Université ouverte d'Israël, le point le plus important.
100 ans après, la signification de la déclaration de Balfour pour Israël reste la nécessité pour Israël de compter sur l'appui d'une grande puissance et de là sur la communauté internationale. Israël a tout à craindre de l'isolement. Je crois que c'est ça la grande leçon de la déclaration de Balfour.
Eric, après avoir combattu pendant des décennies la déclaration Balfour, le texte pourrait être maintenant une bonne nouvelle également pour les Palestiniens.
La signification de la déclaration Balfour, qui ignorait les droits nationaux des Palestiniens, eh bien, c'est que ces droits-là sont aujourd'hui reconnus par la communauté internationale, même si l'État palestinien n'a pas encore vu le jour.
Et puis, il y a aussi un lien précurseur entre la déclaration Balfour et la politique de colonisation.
Oui, et ce n'est pas tout pour la gauche israélienne, mais aussi également pour une partie de la droite, disons la droite modérée. La déclaration Balfour, 100 ans après, porte en elle encore un autre message plus d'actualité que jamais, celui de la formule remise en cause aujourd'hui de deux États pour deux peuples. Denis Charbit.
On peut dire que la déclaration Balfour contient en elle un refus ferme mais discret du grand Israël. En ce sens-là, eh bien, l'idée de deux États existe d'une manière discrète et voilée dans la déclaration Balfour.
La déclaration Balfour livre également un autre message, une mise en garde quasiment prophétique liée à la souveraineté israélienne en Cisjordanie et par là même sur l'épineux sujet des colonies de peuplement. Et 100 ans après, les rôles semblent inversés, et ce sont les nationalistes israéliens qui n'apprécient plus du tout le texte qui a permis la naissance d'Israël.
Et pour le monde arabe, Alexandre, quelle a été la portée de cette déclaration Balfour ?
D'abord, pour le monde arabe, cela n'a jamais été une déclaration, mais une promesse dont ils ignoraient tout, alors que durant la Première Guerre mondiale, ils se battaient avec les Anglais contre l'armée ottomane sur le canal de Suez, en Arabie et dans le Levant. Une sorte de trahison où, comme le disait le président égyptien Nasser, celui qui ne possédait pas a donné à celui qui ne méritait pas. La déclaration Balfour reste, pour les Arabes, la mère de toutes les conspirations internationales. C'est à cause de Balfour qu'une bonne partie des Arabes imputent la plupart de leurs problèmes à une conspiration sioniste. Les guerres successives, depuis celle de Palestine en 1948 à celle de Gaza en 2014, n'ont pas arrangé les choses.
Où en est-on aujourd'hui, Alexandre ?
Même si les deux principaux participants à la guerre de Palestine, l'Égypte et la Jordanie, ainsi que les Palestiniens, par le biais de l'OLP, ont signé des traités de paix avec Israël, la déclaration Balfour reste perçue comme un crime imprescriptible. De nombreux éditorialistes et commentateurs exigent que le Royaume-Uni fasse des excuses, à défaut de demander pardon pour un acte qui a causé plus de 100 000 morts et des millions de réfugiés, sans parler de milliards en pertes économiques. Certains vont plus loin et réclament que Londres paye des dédommagements aux Palestiniens lésés par la promesse du chef de la diplomatie de Sa Majesté.
Ce centenaire a-t-il remis la question palestinienne sur le devant de la scène politique arabe ?
Tout à fait. La cause palestinienne, qui était le thème central de tout sommet arabe, avait été mise en veilleuse du fait de l'émergence du groupe État islamique et des conflits en Syrie, en Libye et au Yémen. Aujourd'hui, Daesh recule sur tous les fronts et les conflits ont pris une sorte de vitesse de croisière. Le centenaire de la déclaration Balfour arrive de plus à un moment où les Palestiniens, qui se déchiraient entre le Fatah et le Hamas, ont entamé leur réconciliation. Le centenaire Balfour sera peut-être le catalyseur d'une nouvelle initiative arabe. C'est du moins ce qu'espèrent les Palestiniens.
Affaire à suivre donc. Merci Alexandre et merci Michel. Merci également à tous pour votre fidélité à Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. On se quitte avec Kerry James, un rappeur franco-haïtien qui soutient activement la cause palestinienne et évoque Balfour dans sa chanson « Avec le cœur et la raison ».
Chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous effraie, mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. L'héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe.